Le Liban est un pays plus ou moins prospère selon qu'il est en guerre ou pas. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, la côte était occupée par les Phéniciens, un peuple de marins. Tyr, leur ville principale, était puissante et florissante car ses navires contrôlaient tout le commerce en Méditerranée. Ses richesses lui permettaient d'entretenir une armée de mercenaires. Je continue à lire dans le chapitre 27 du livre d'Ézéchiel. Les Perses et ceux de Put, comme de Loud, entraient dans ton armée. C'étaient des gens de guerre. Ils suspendaient chez toi leurs boucliers, leurs casques et assuraient ta gloire. Les gens d'Arvad et leur armée étaient sur tes murailles tout autour de la ville. Les hommes de Gamad étaient dans tes donjons. Versets 10 et 11. Pour la protection de ses colonies, Tyr enrôlait des soldats venus de très loin, tout comme le firent plus tard les habitants de Carthage, une ville fondée par les Phéniciens dans le golfe de Tunis. Cependant, pour défendre la mère patrie, la ville de Tyr, de son roi et de sa haute aristocratie, les guerriers étaient des Phéniciens sur qui on pouvait compter, on ne sait jamais, et qui constituaient aussi les troupes d'élite. Ézéchiel donne ensuite une liste impressionnante de toutes les denrées que Tyr achetait ainsi que des pays et villes-états, plus d'une vingtaine, avec qui la ville faisait du commerce. Les Phéniciens allaient dans tout le bassin méditerranéen jusqu'aux îles britanniques ainsi qu'au Proche et Moyen-Orient, dans toute l'Asie mineure, l'Afrique et jusqu'à l'océan Indien. Ils achetaient esclaves, argent, fer, étain, plomb, objets de bronze, chevaux, mulets, défenses d'ivoire, bois d'ébène, pierres précieuses, tapis écarlates, broderies, tissus de fin lin, corail, rubis, froment, miel, l'huile, du baume, la laine, le vin, du fer forgé, roseaux et bois aromatiques, étoffes, agneaux, béliers et boucs, de l'or, des manteaux teints de pourpre et finement brodés, des tissus bigarrés, cordons tressés, et j'en oublie. Il était possible d'acheter tout et n'importe quoi sur les marchés de Tyr. Le prophète termine ses listes en disant « Les vaisseaux au long cours assuraient le transport de tes produits. Oui, tu étais rempli et lourdement chargé de marchandises au cœur des mers. » On peut se faire une idée de ce qu'était ce commerce international sous l'égide de Tyr en lisant dans le livre de l'Apocalypse la prophétie concernant la Babylone de la fin des temps. Ce sera le centre politique et religieux du monde et la capitale de l'Antéchrist. Aujourd'hui aussi, si vous avez de l'argent, vous pouvez acheter tout ce que vous voulez, même des esclaves, que ce soit Londres, Paris, Rome, New York, Los Angeles ou Moscou par exemple. Comme je le dis de temps en temps, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tyr était comme le Titanic. Tout ce que les gens désiraient était à bord et l'orchestre battait son plein. On riait, on s'amusait et le champagne coulait à flot. Puis ce fut le drame. Je continue le texte. Mais sur les grandes eaux où t'avaient amené ceux qui maniaient tes rames, tu as été brisé par le vent de l'Orient au milieu de la mer, et tes richesses, tes marchandises, les articles de ton commerce, tes marins, tes pilotes, et tes calfas, et tes marchands, tous les hommes de guerre qui sont chez toi, toute la multitude qui remplit ton navire, tomberont dans la mer au jour de ton naufrage. Au cri de tes pilotes, les régions de la côte se mettront à trembler. Versets 26 à 28. Le vent d'Orient est particulièrement violent et souffle en saccade, ce qui le rend très dangereux pour les navires. Il représente les armées babyloniennes qui dévastèrent toute la côte phénicienne, le Liban actuel. Le Titanic, réputé insubmersible, a coulé à pic. L'équipage du navire Tyr pousse un cri terrible avant de disparaître. C'est aussi ce qui arrivera à la grande Babylone de la fin des temps. Les bourses s'effondreront et l'argent ne vaudra même pas le papier sur lequel il est imprimé. Toutes ces choses en qui les gens croient et se confient et qui pour eux ont de la valeur se transformeront en poussière entre leurs doigts. Je continue en compressant et finis le chapitre 27. Alors, tous les rameurs, les matelots, tous les marins qui sillonnent la mer quitteront leur navire et se tiendront sur terre. Dans leur douleur, ils chanteront sur toi une élégie funèbre. Qui était comme Tyr, maintenant silencieuse au milieu de la mer? Par la surabondance de tes produits et de tes marchandises, tu enrichissais les rois de la terre, mais te voilà brisé par les flots de la mer, jeté au fond des eaux profondes. toute ta cargaison et tout ton équipage ont sombré avec toi. Ceux qui commercent parmi les peuples se rient de toi, et tu inspires l'épouvante, c'en est fini de toi. » Versets 29 à 36. Tandis que ceux qui échangeaient leurs produits avec les commerçants de Tyr sont consternés, leurs rivaux se réjouissent de sa chute. Cette ville orgueilleuse s'était moquée de Jérusalem, et bien maintenant ses concurrents lui rendent l'appareil. Tyr a reçu la monnaie de sa pièce. Sa fin définitive contraste avec la promesse de la restauration d'Israël qui sera répétée à plusieurs reprises dans les chapitres suivants. Il est vrai que la ville de Tyr s'est relevée, mais elle fut à nouveau enfoncée et ce cycle se répéta plusieurs fois comme j'ai déjà dit. Ézéchiel, comme les autres prophètes de l'Ancien Testament, ne tiennent généralement pas compte de l'élément « temps ». Pour eux, les siècles se télescopent et ils voient déjà leur aboutissement. Nous arrivons au chapitre 28 où Ézéchiel décrit la grandeur et la chute du prince de Tyr. Cet homme était un fin stratège car il résista pendant 13 ans à Babylone. Mais cette prophétie s'adresse à la fois au prince régnant et à l'ensemble des monarques de Tyr. De plus, derrière eux et leur puissance politique et commerciale, se cache un personnage funeste, Satan, le prince de ce monde de ténèbres. Quand il a emmené Jésus sur une hauteur, le diable lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit « Je te donnerai la domination universelle ainsi que les richesses et la gloire de ces royaumes, car tout cela a été remis entre mes mains et je le donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, tout cela sera à toi. » Fin de citation. Si le Seigneur rejeta l'offre du diable, ce n'était pas parce qu'elle était illégitime, car le Christ savait très bien que le diable ne bluffait pas et que c'est lui qui tire les ficelles dans toute sphère du pouvoir. Mais Jésus est venu pour faire la volonté de son Père et il savait qu'un jour, choisi par Dieu, il régnerait sur le monde entier comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Aujourd'hui cependant, le diable est toujours le prince de ce monde. Et il parcourt sans cesse les couloirs des chancelleries de notre planète afin de susurrer aux grands de ce monde la conduite à tenir pour faire avancer son royaume de ténèbres. Je commence à lire le chapitre 28. L'Éternel m'adressa la parole en ces termes. Fils d'homme, dis au prince de Tyr, voici ce que te dit le Seigneur, l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as proclamé, voici je suis un dieu et j'occupe ma place sur un trône divin au milieu de la mer. Pourtant, tu n'es qu'un homme et tu n'es pas un dieu, mais tu te crois aussi sage que Dieu. Versets 1 et 2. Ce passage fait penser aux paroles de l'apôtre Paul concernant l'Antéchrist quand il écrit « Il est l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu et de tout ce qui est l'objet d'une vénération religieuse. Il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. » L'orgueil démesuré du prince de Tyr rappelle celui du roi de Babylone dénoncé par le prophète Ésaïe dans un chant funèbre parallèle à celui-ci. Dans les religions païennes, le roi était considéré comme Dieu. À cette époque, tout le monde croyait, dur comme fer, que leur civilisation avait été fondée par leur divinité nationale et leur roi, placé à la tête de l'État, était assis sur le trône de ses dieux. De plus, la ville de Tyr portait le titre d'île sainte, ce qui faisait d'elle la rivale religieuse de Jérusalem. Je continue. Voici, tu es plus sage que Daniel, rien de secret n'est caché pour toi. Verset 3. Ici commence l'énumération des attributs remarquables du prince de Tyr qui lui ont permis de s'élever au-dessus de tous. Son orgueil était fondé sur la sagesse et l'influence politique, sur son habileté dans tous les domaines, surtout économiques, et sur l'immense richesse qu'il avait accumulée. Ézéchiel est très ironique à l'égard du prince de Tyr, car il savait très bien que le prophète Daniel avait accédé aux plus hautes charges de l'État à cause de la très grande sagesse que Dieu lui avait donnée. Entre vous et moi, si j'avais pu choisir, j'aurais préféré être Daniel, car Ézéchiel avait reçu une tâche très ingrate, puisqu'il devait prêcher à des exilés qui ne voulaient rien entendre, tandis que Daniel vivait dans le luxe du palais impérial, même si en contrepartie, il a dû passer une nuit dans la fosse aux lions. Mais ni l'un ni l'autre n'ont eu un mot à dire dans cette affaire, car c'est Dieu qui a décidé quelle serait la tâche de chacun d'eux. Aujourd'hui, L'homme se pavane de son savoir et de ses prouesses, mais il est stupide, bête comme ses pieds, alors que dans l'Antiquité, il existait vraiment des sages. J'estime qu'on nous prend pour des andouilles quand on nous rabâche sans arrêt, et je n'exagère pas, que le ciel étoilé, qui compte au bas mot 100 milliards de milliards d'étoiles, s'est fait tout seul comme ça. Bon, j'arrête là car le sang me monte à la tête et je continue le texte. Par ta sagesse et ton intelligence, tu t'es constitué une immense fortune et tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Par ton extrême habileté dans ton commerce, tu as accumulé des richesses sans nombre, et avec ta fortune, ton cœur s'est élevé. Versets 4 et 5. Les princes de Tyr étaient vraiment rusés, car ils avaient réussi à faire de leur ville-état minuscule le centre d'un immense empire commercial qui exploitait les richesses de la terre pour leur usage personnel. Leur faute est d'avoir abusé des dons que Dieu leur avait donnés, pour servir leur égoïsme sans frein. Ensuite, la réussite dans les affaires et la prospérité leur sont montées à la tête et ils ont bombé la poitrine, ce qui a provoqué le jugement divin. Or, comme chacun sait, plus on est haut et plus la chute est douloureuse. Je continue en compressant. À cause de cela, j'amène contre toi des nations étrangères. Ils tireront l'épée contre tous les chefs-d'œuvre de ton habileté et profaneront ta splendeur. Ils te feront descendre dans la fosse et tu mourras de mort violente. Versets 6 à 8. Ce passage fait allusion aux envahisseurs babyloniens et grecs, aux croisés et aux arabes qui ont fini par anéantir Tyr à tout jamais. Je continue plus loin. L'Éternel m'adressa la parole en ces termes. Verset 11. À partir d'ici, Ézéchiel va prononcer une complainte, non sur le prince, mais sur le roi de Tyr. Ce changement est important car Ézéchiel n'utilise le titre de roi que pour Jéhoïakin, qu'il considère comme le roi légitime de Juda. Ici, ce roi de Tyr ne s'applique pas à un prince régnant, mais à Satan, qui est derrière toutes les monarchies, républiques ou dictatures de ce bas monde. Il existe deux textes qui expliquent l'origine du mal et de Satan. Celui-ci est un passage d'Ésaïe que je lis. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône bien au-dessus des étoiles divines. Je siégerai en roi sur la montagne de l'assemblée des dieux, aux confins du septentrion. Je monterai au sommet des nuages. Je serai semblable au Très-Haut. Fin de citation. Il faut bien remarquer les cinq « je » du passage que je viens de lire. La créature la plus fabuleuse de l'univers a chuté parce que elle a voulu s'élever pour être au même niveau que Dieu. Comment un être aussi intelligent, sage et brillant a pu concevoir de telles pensées est absolument incompréhensible. C'est le mystère du mal. Je continue. Fils d'homme, prononce une complainte contre le roi de Tyr. Dis-lui, ainsi te parle le Seigneur, l'Éternel. Par ta grande sagesse et ta beauté parfaite, tu étais un modèle de perfection. Verset 12. Satan n'a pas été créé comme le représentant du mal. À l'origine, il était la créature la plus sage et la plus belle de toutes. Les gravures du Moyen-Âge qui le représentent avec des cornes, une queue fourchue et des sabots sont totalement erronées. Elles se sont inspirées de la mythologie grecque qui décrit Pan, le dieu des bergers, avec le bas du corps d'un bouc. En réalité, Lucifer, car tel était son nom, était une créature éblouissante et c'est aussi pour cette raison que les adeptes des sectes présentent très bien et ont toujours le sourire aux lèvres. Pensez donc, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. L'apôtre Paul décrit les faux prophètes disant que ce sont des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres du Christ et ce n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étonnant ni surprenant que ses représentants se déguisent en serviteur de justice. Je continue le texte. Tu étais en Éden, dans le jardin de Dieu. Tu étais recouvert de pierres très précieuses de toutes les espèces, rubis, topaz et diamants, chrysolite et onyx, jaspe, saphir, escarboucle, émeraude. Tes tambourins, tes fifres étaient d'or ouvragé. Ils furent préparés le jour même où tu fus créé. Verset 13. Ces 9 pierres précieuses figuraient sur le pectoral du grand prêtre qui en comptait 12. La beauté de Lucifer rivalisait avec la splendeur du jardin d'Éden, le paradis de Dieu. D'après ce passage, il semble aussi que cet ange était chargé d'organiser la louange céleste au moyen d'instruments de musique. Curieusement, c'est l'arrière-arrière-petit-fils de Caïn, un dénommé Youbal, qui est l'ancêtre des musiciens. De nos jours, côté musique, on trouve de tout. Les morceaux les plus sublimes avec ce qui semble sortir tout droit des antres de l'enfer. Je continue le texte. Or, je t'avais placé, chérubin ayant rôle de protecteur. C'est pourquoi je t'ai oint sur ma montagne sainte. C'est là que tu étais. Tu allais et venais au milieu de ces pierres aux feux étincelants. Verset 14. Les chérubins formaient la garde rapprochée de l'Éternel, son cercle d'intime pour ainsi dire. Satan jouissait non seulement de l'immense privilège d'un accès illimité à la glorieuse présence de Dieu, mais aussi du rang le plus élevé. Je continue. Tu as été irréprochable dans toute ta conduite depuis le jour où tu as été créé jusqu'à ce que le mal se soit trouvé chez toi. Par l'activité de ton commerce, tu t'es rempli de violence. Alors tu as péché. Je t'ai mis au rang des profanes en te chassant de ma montagne. Et je t'ai expulsé, chérubin protecteur, du milieu de ces pierres aux feux étincelants. Versets 15 et 16. Comme toute la création, Satan était moralement parfait jusqu'à ce qu'il commette l'impardonnable, le péché d'orgueil. Suite à cette rébellion, Dieu a dû destituer sa plus belle créature. Mais sa descente aux enfers se fait par étapes. Satan a d'abord été démis de ses fonctions de chérubin protecteur, puis expulsé du gouvernement divin. Cependant, il avait et a toujours accès à Dieu. Pendant la grande tribulation, il sera chassé du royaume des cieux et consigné sur terre. Malheur à l'humanité. Pendant les 1000 ans de règne du Christ, il sera enfermé dans l'abîme et après sa brève libération à la fin du millénium, il sera jeté dans l'étang de feu pour l'éternité. Satan n'a pas péché sur un coup de tête. Ce fut un acte réfléchi. Il s'est engagé dans un commerce à l'instar du prince de Tyr. Ce n'est pas qu'il achetait ou vendait des marchandises, mais il a profité de tous ses contacts avec la création et les anges pour fomenter un complot, monter un coup d'état en quelque sorte. Avec le mot commerce, Ézéchiel revient au prince de Tyr, mais il continue aussi à parler de Satan, ce qui fait que les deux personnages s'enchevêtrent et se superposent. Je continue. De ta grande beauté, tu t'es enorgueilli et tu as laissé ta splendeur pervertir ta sagesse. Je t'ai précipité à terre et te donne en spectacle aux autres rois. Verset 17. La première partie du verset s'applique à Satan et la seconde au prince de Tyr qui a été jeté à terre et qui est en spectacle aux autres rois. Je continue. Par tes nombreux péchés, dans ton commerce malhonnête, tu as souillé tes sanctuaires et du milieu de toi, j'ai fait surgir un feu afin qu'il te consume. Je t'ai réduit en cendres sur la terre à la vue de tous, et tous ceux qui te connaissaient parmi les peuples sont frappés de stupeur, car tu es devenu un objet d'épouvante. C'en est fini de toi, oui, fini pour toujours. Versets 18 et 19. Là encore, il est question à la fois de Satan et du prince de Tyr, mais surtout de ce dernier. Je continue le texte en compressant. L'Éternel m'adressa la parole en ces termes. « Fils d'homme, tourne-toi vers Sidon, prophétise sur elle. Je vais m'en prendre à toi, Sidon. J'enverrai contre toi la peste. Le sang coulera dans tes rues et les morts tomberont, tués au milieu de toi par l'épée venue de toutes parts contre toi. » Et l'on reconnaîtra que je suis l'Éternel. Versets 20 à 23. Sidon, proche de Tyr et premier port phénicien à être établi sur la côte, était à l'époque subordonné à Tyr. Sidon fut détruite par Babylone, puis plus tard par le pharaon Ophra. Cependant, Dieu ne l'a pas maudite comme Tyr, et elle fut non seulement reconstruite, mais aujourd'hui c'est un port important du Liban. Je finis le chapitre 28 en compressant. Voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel, quand je rassemblerai la communauté d'Israël au milieu des nations parmi lesquelles elle est dispersée, je manifesterai ma sainteté par la façon dont j'agirai envers eux aux yeux des païens. Alors, ils habiteront dans leur propre pays, celui que j'ai donné à mon serviteur Jacob. Ils y habiteront en sécurité, ils bâtiront des maisons et planteront des vignes. Ils y habiteront en sécurité quand j'aurai exécuté les jugements sur tous leurs voisins qui les méprisent, et l'on reconnaîtra que je suis l'Éternel, leur Dieu. » Versets 25 et 26. Dieu affirme une fois encore qu'il restaurera Israël en le ramenant dans le pays de ses ancêtres. Cet événement aura lieu lorsque le Messie instaurera son règne 2000 ans. Cette promesse est le refrain de tous les prophètes de l'Ancien Testament. Ce n'est pas l'homme, mais Dieu qui établira le ciel sur la terre, et il le fera au travers de son peuple, Israël.